Bonjour à tous, bienvenue à vous dans le podcast Hors du Capital. On est très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi 22 avril, pour débriefer la belle victoire du Paris Saint-Germain hier, 4-1 au Parc des Princes pour la clôture de la 30e journée. On va revenir sur cette belle victoire avec un effectif remanié après la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. C'était mercredi, vous l'avez suivi dans le podcast, vous l'avez suivi le match mardi, on a débriefé ça mercredi. Il y a beaucoup de choses à dire sur la victoire hier face à l'Olympique Lyonnais. On a plusieurs thèmes, notamment sur Gonçalo Ramos, les tops des chroniqueurs et l'hommage du parc évidemment à Marquinhos pour son record de 436 matchs avec le maillot du Paris Saint-Germain. Pour m'accompagner pour ce podcast, Monsieur Yacine Hamned qui est présent avec nous. Bonjour Yass, comment ça va ?
Salut à tous, ça va ? Écoute, c'est une semaine,
bon match,
c'est une semaine
hier,
de fou parce que... C'est une semaine de fou parce que Paris s'est qualifié à l'extérieur en mettant 4-1 au Barça. Paris a tapé Lyon 4-1 et on est à l'heure. Donc, je ne sais pas, là, il est en train de se passer quelque chose d'improbable dans cette vie.
Effectivement, c'est la semaine des 4-1. C'était la semaine des 4-1 pour le Paris Saint-Germain qui a battu le Barça sur sa pelouse et qui a écœuré l'OL hier sur le même score. Jean-Baptiste Guégan, qui était déjà là mercredi, fidèle au poste également. Ça va, JB ?
Ouais, ça va. Salut les gars, bonjour tout le monde, on est ravis d'être là.
Ok, c'était court, rapide, efficace. Ravi d'être là, comme toujours.
Comme l'attaque du PSG hier, tu marques, tu frappes et tu repars.
Tranchant, exactement, très très tranchante l'attaque du Paris Saint-Germain hier. Et pour compléter la bande, il fait son retour après une belle semaine de vacances. Je sais qu'il a manqué à certains sur les débriefs, notamment après la victoire face au Barça. Mais bon, vous le retrouvez souvent sur Twitter, ceux qui sont abonnés, évidemment, vous pouvez suivre ses avis sur Tranché sur X. C'est Nicolas Puravo qui fait son retour dans le podcast. Ça va, Nico ?
Une victoire à Barcelone, je n'étais pas au courant, les amis. Que s'est-il passé cette semaine ? Hola, Chico ! C'est oui ! J'étais pas là, je suis désolé.
Oh, le troll !
Eh bien, écoutez, bonne semaine. Super. Je sais pas vous, moi, bonne semaine.
Et par contre, Nico, t'es
alors, attends.
T'es dans...
Je suis dans le brouillard, mais ça, c'est ma caméra.
Ouais, il y a un microclimat chez toi ou quoi ?
C'est ça, c'est un peu... Je suis dans la banlieue de Barcelone, c'est tout plein de brouillard en ce moment ici, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est la caméra, je ne peux rien faire.
C'est ce que j'allais dire, on a l'impression qu'il y a un petit nuage de fumée autour de toi. Soit tu es dans une chicha, soit c'est ta caméra qui bug.
C'est ça.
Bon alors, très très beau maillot, Nico. Est-ce que tu l'as acheté exprès ?
Non, tu sais quoi, je l'ai récupéré dans le placard de mon fils. Donc c'est une taille 14 ans, je ne vais pas garder longtemps parce que je me sens un peu serré dedans. Mais bon, voilà, il fallait que je le montre parce que le Barça, c'est ma nouvelle équipe de cœur. Moi, j'aime beaucoup ce club, donc voilà. Barça United, les amis.
Voilà. Ouais, Barça United. Bon voilà, Nicolas Puravo qui fête bien son retour. J'en profite pour saluer les gens présents sur le chat. Alors, il y avait déjà des questions avant que tu répondes en disant pourquoi Nico a un maillot du Barça. Nico avec le maillot du Barça a gerbé ce maillot.
Non, parce qu'en plus là dans le magasin il fait 16 degrés, donc je vais vite remettre un pull, je pense. Allez, j'y vais tout de suite d'ailleurs.
C'est marrant deux minutes, mais.
Je vais mettre un pull.
Il a eu son effet coup de com', Nicolas Puravo. Bon, le temps de lui laisser se changer, Monsieur Puravo, on va démarrer le podcast avec donc la victoire du Paris Saint-Germain hier, 4-1 face à Lyon. Le break était déjà fait au bout de 6 minutes de jeu. Et puis donc, il y a eu un doublé de Gonçalo Ramos, Beraldo sur corner, Matic contre son camp. Nouama avait réduit l'écart, mais rien n'y fait. Paris s'est imposé 11 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'AS Monaco, qui a battu hier Brest. À Francis Leblé, Paris 66 points, Monaco deuxième avec 55. Paris a donc une très belle avance au classement. On va démarrer avec notre première thématique, la victoire du collectif. Alors pourquoi on l'a nommée comme ça ? Yacine, je vais venir te voir en premier. Parce que Paris avait fait tourner hier, Mbappé était sur le banc, il y avait un effectif un peu remanié, Ousmane Dembélé et Dembélé également étaient sur le banc. Vous voyez les compositions, il y avait du turnover avec Colomouani, avec Gonçalo Ramos, Asensio, Beraldo qui était titulaire à gauche. Et Paris a fait une très belle impression, Yacine, hier au Parc des Princes, notamment en première période, avec, donc on le disait, Paris qui menait déjà 2-0 au bout de 6 minutes de jeu. Paris qui a étouffé son adversaire, Pourtant, Lyon est sur en 2024 est la meilleure équipe en termes de points. C'était une équipe en confiance, hein, qui arrive au Parc, qui a retrouvé des belles couleurs, équipe que l'on affrontera en finale de la Coupe de France. Et Paris n'a pas fait de sentiment hier, Yacine.
Ouais, ils ont attaqué le match comme il fallait. Je crois qu'ils n'ont même pas laissé les Lyonnais rentrer sur le terrain. Il y avait déjà 2-0. Le but contre son camp, c'est encore une fois comme le carton rouge. C'est provoqué, c'est-à-dire que tu peux débattre 2 heures de dire ouais c'est un CSC, mais c'est provoqué. Ensuite, t'as un PSG qui ne s'endort pas, qui continue à jouer. Et en fait, c'est là où on voit tout le travail de Lucien Riquet cette saison. Ça veut dire que il a fait tourner parce qu'il a déjà expliqué régulièrement qu'après la Ligue des Champions, avant la Ligue des Champions, c'est compliqué. Après la Ligue des Champions, c'est compliqué. Il faut redescendre du nuage parfois ou de la déception des fois, mais en tout cas là, c'était le nuage. Voilà, tout ce qui est en termes d'adrénaline, de concentration, etc. Donc il fait tourner parce que encore une fois il a concerné tout son groupe depuis le début de saison, et que quand il fait tourner, un, ça a pas l'impression, les joueurs qui rentrent, ils ont pas l'impression d'être des bouche-trous en se disant on repose les stars ou les grands joueurs, on fait partie de l'effectif, ils ont du temps de jeu, donc ils sont opérationnels, les principes de jeu sont forts, donc même avec les remplaçants, tu continues d'être performant. Et en fait, c'est tout ce qu'on a réclamé depuis plusieurs saisons, à savoir que le PSG ne pouvait pas jouer une saison à 12 ou 13, et que les principes de jeu n'étaient pas assez forts, parce que dès que tu avais un absent, ça te tuait l'équipe. Bah, là, voilà, tout le monde est au diapason, tout le monde comprend les principes, tout le monde est opérationnel en termes de jeu, en termes de temps de jeu plutôt. D'ailleurs, il l'a très bien expliqué cette semaine, Luis Enrique, en disant « Moi, je gère des temps de jeu. » On en avait parlé régulièrement sous Galtier, on en a reparlé un peu la semaine dernière. Ils ont des temps de jeu à respecter. Après, encore une fois, s'il y avait un blessé, un suspendu, tu t'adaptes sur un match. Mais ils ont des temps de jeu sur une durée, et lui, il se plie au temps de jeu. C'est-à-dire qu'hier, par exemple, Nuno Mendes n'est même pas dans le groupe. Voilà, ça fait partie de la gestion. Et dernier mot pour finir, il y a aussi cette gestion des blessés qui a été très bonne. Pourtant, l'équipe a fait un super papier pour nous expliquer que c'était très mal géré. Donc, merci à eux. Et en fait, bah, la gestion des blessés, pourquoi elle est bonne? Parce que comme tu as un groupe qualitatif, comme tu as un groupe où chacun est interchangeable, eh ben, au lieu de faire revenir un blessé une semaine ou 10 jours trop tôt parce que tu n'as pas le choix, parce que l'équipe tourne autour de lui, eh ben, tu peux lui donner une semaine, 10 jours de plus, pour lui permettre de revenir tranquillement, parce que l'équipe tourne sans les blessés, les suspendus, etc. Voilà, donc c'est pour l'instant, jusqu'à maintenant, on va dire pratiquement une gestion parfaite du collectif, en tout cas.
Nico, ça m'intéresse d'avoir ton avis, puisque donc, on ne t'a pas vu depuis plusieurs podcasts. Donc le PSG hier qui a bouclé sa 20e victoire de la saison, plus proche que jamais de son 12e titre de champion de France. Entre le match du Barça, Nico, et celui de Lyon hier, qu'est-ce qui te fait dire que voilà, c'est encore une fois cette victoire aussi de Luis Enrique, et surtout que l'équipe va dans le bon sens, un peu dans la continuité de ce que l'on voit depuis quelques semaines?
Bon, il y a quand même pas mal de signes. Il y a effectivement ce qu'on voit déjà sur le terrain, avec, comme le dit Yacine, on voit les bases collectives attendues par Luis Enrique, on voit les principes de jeu. Tout n'est pas parfait, encore une fois, et ça ne le sera pas de la saison de toute manière. C'est une équipe qui a plein d'imperfections, mais c'est ce qui fait aussi son charme quelque part. C'est qu'on a retrouvé, et c'est d'ailleurs hier le message dans la tribune, voilà, on a trouvé une mentalité, on a trouvé des guerriers. Enfin, ce que cette équipe dégage est agréable pour un supporter, parce qu'on sent que ce sont des joueurs qui ne trichent pas, on sent qu'il y a une vraie cohésion entre le staff technique, les joueurs. Tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui se retranscrit un peu sur le terrain. Après il y a aussi tout ce qui se passe à côté, voilà, le fait d'avoir une infirmerie vide, c'est pas anodin à cet instant de la saison. Tous les voyants sont ouverts, et la semaine du PSG, elle est agréable, parce qu'on a vu des belles choses, on a vu dans le jeu vraiment de la qualité, on a vu de la combativité, on a vu de la solidarité. On a vu du talent hier soir, on a vu de la gestion. Enfin voilà, il y a tout en ce moment, et tout s'enchaîne bien en ce moment. C'est vraiment une très très belle semaine. Je pense que la première mi-temps hier, c'est la meilleure en termes de jeu qu'on ait vu cette saison en Ligue 1, notamment.
Il l'a dit, Luis Enrique, d'ailleurs, après le match.
C'est logique. Et ça, c'est indépendamment de l'adversité, des faits de jeu. On parlait du carton rouge à Barcelone, du but contre son camp hier. Mais pour moi, tout ça, c'est anecdotique. Moi, ce que je retiens de cette semaine, c'est que on est dans le money time de cette saison et qu'aujourd'hui, le PSG confirme sa montée en puissance. C'est quelque chose qu'on louait régulièrement, notamment avec le Real Madrid. On expliquait toujours que cette équipe-là, en première partie de saison, c'était toujours poussif, moyen, et que lors du tirage au sort de décembre, tout le monde se disait « tomber sur le Real, en fait, c'est pas une mauvaise chose ». Sauf que ce sont des équipes qui sont programmées pour les échéances de fin de saison. Et j'ai l'impression que le travail de Luis Enrique cette saison est justement tourné autour de ça. Et que, on est fin avril, on est encore engagé sur toutes les compétitions, les trophées vont commencer à tomber. Et puis, il y a surtout cette carotte Ligue des Champions où vraiment aujourd'hui, on a l'impression que, je vais pas dire que c'est pour nous cette année, mais t'es vraiment en super position pour aller disputer une finale et tout est possible. Donc, on est à 3 matchs d'une Ligue des Champions et j'y crois vraiment très fort cette année. Donc belle semaine, évidemment, belle semaine.
JB, pour aller dans la continuité de Nico, et c'est pour ça qu'on a nommé cette première partie la victoire du collectif, c'est qu'on est fin avril, Nico le disait, on est engagé sur tous les tableaux, et surtout, dans le jeu, on ne dépend pas d'exploits individuels, on dépend d'un collectif qui joue ensemble, et tout ne repose pas sur un ou deux joueurs, et c'est ce qu'aussi a réussi à construire Luis Enrique, c'est peu importe les joueurs dans le 11 titulaire, les performances sont au rendez-vous.
On l'a vu avec Beraldo d'abord qui marque, on l'a vu avec cette superbe action menée par Vitinha qui part d'un contre et l'action est l'une des plus belles de la saison. On voit qu'avoir un avant-centre, ça sert à quelque chose. On se rend compte derrière que tout ça, ça doit être bien être lié à quelqu'un. Cette personne qui se trouve entre le banc et le début de la pelouse. Donc c'est assez plaisant de voir ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les joueurs changent. Mais le niveau de performance reste haut et surtout, même avec les remplaçants et même avec les jeunes, tu t'exposes pas tant que ça. Même si la deuxième mi-temps hier contre Lyon était moins satisfaisante, mais on menait déjà 4-1, on s'est rendu compte que tu pouvais faire rentrer les jeunes, tu pouvais leur donner du temps de jeu. Et tout le monde est sorti de cette soirée très satisfait, la première mi-temps étant d'excellente facture. Et puis, petit clin d'œil à l'équipe, à chaque fois qu'ils font un papier et qu'ils donnent 2 pages à un entraîneur, qu'on rencontre derrière, c'est une très belle victoire pour le PSG. Donc surtout l'équipe, continuez. Hein. On vous aime, on vous apprécie. Et Pierre Sage l'a reconnu lui-même. Hein. Il a été présomptueux en mettant son équipe de fin de mi-temps dès la première. Et ben voilà le résultat, 4-1.
Après Pierre Sage,
on parle. Je souligne au passage une très bonne interview. Hein. Bonne interview de Pierre Sage dans l'équipe. L'interview est très bonne.
Mais c'est drôle.
Ça m'a après, il est gentil Pierre Sage, mais quand il dit ça confirme ce que j'ai vu de Luis Enrique et tout. Il connaît pas grand-chose, Pierre Sage, parce qu'il est que entraîneur. Par rapport au journaliste qui nous explique que Luis Enrique est une...
Ah, oui. Non, mais j'ai cru que tu étais en train de critiquer Pierre Sage. Non, c'est bon, j'ai compris que tu... tu parles de l'interview où il disait... oui, bien sûr, que Pierre Sage louait le travail réalisé par Luis Enrique au PSG. Yacine, aussi, pourquoi on a eu un match plaisant hier et que Paris a su... vite provoquer cette équipe de Lyon et marquer rapidement, c'est aussi parce que voilà, il y avait une équipe en face de Pierre Sage qui jouait vers l'avant, qui n'était pas venu pour attendre derrière et placer quelques contres. À part un moment, ils ont dû rester un peu dans leur défense parce qu'ils perdaient déjà 2-0. Mais sinon, c'est une équipe assez joueuse et ils n'ont pas démérité avec Nouama qui a réduit l'écart à 3-1. C'était aussi un plan de jeu parfait pour le PSG en contre-attaque. Avec les joueurs qu'il y avait, notamment sur la passe de Vitinha qui casse 3 lignes, etc., avec Asensio et Ramos, ça convenait au jeu du PSG, voilà.
Oui, après tu t'es aussi permis, enfin, tu t'es donné les moyens d'avoir ce match, puisque tu mènes 2-0 au bout de 5 minutes, donc c'est clair que le plan de départ, il est quand même mis à mal. Maintenant, Pierre Sage, il a dit aussi qu'il était venu jouer parce que dans sa tête, il pensait que jouer et priver le ballon du PSG, peut-être les moyens, se donner les moyens de faire un résultat ici. De toute façon, pour qu'il y ait un match plaisant et ouvert, il faut qu'il y ait 2 équipes. Donc, c'est aussi Lyon qui a permis de rendre ce match, mais c'est le début de match du PSG. C'est la réaction de Lyon, c'est le fait de ne pas fermer le jeu. La deuxième mi-temps, elle est... En fait, la deuxième mi-temps, c'est toujours pareil. Alors, c'est comme quand Paris avait mené 4-0 contre Marseille à la mi-temps. On a toujours envie de les enfoncer parce qu'en plus, il y a cette rivalité un peu avec Marseille, avec Lyon, etc. Mais on peut comprendre que dans ce moment-là, en menant 4-1 et en ayant un match mercredi encore, puis un match samedi, puis la Ligue des Champions qui arrive, bon, c'est aussi humain et logique que les joueurs se gèrent à partir du moment où ils ne sont pas en danger. Peut-être qu'il y aurait eu un deuxième but de Lyon, on aurait revu des choses. Là, il n'y avait pas besoin de forcer plus que ça. Lyon avait abdiqué. Donc voilà, mais oui, de toute façon, il faut deux équipes pour rendre un match beau et spectaculaire. Voilà, la première mi-temps l'a été, la deuxième mi-temps a été bonne aussi. Alors, elle n'est pas au niveau de la première, mais elle a été bonne aussi. Hein.
Je voulais parler, je ne sais pas si on passe directement à notre deuxième partie sur le fait que Mbappé était sur le banc hier, que Gonçalo Ramos était titulaire un peu à sa place et que ça a donné lieu à des actions offensives avec de la présence dans la surface. Donc, je ne sais pas si on passe directement à notre deuxième partie ou si Nico, tu voulais rajouter quelque chose sur la première période. Je pense qu'on peut aller directement sur ce thème. Ouais, allez, je vais te lancer, Nico, sur cette partie parce que c'est vrai que, voilà, on l'a titré comme ça, un PSG avec et sans neuf. On l'a suffisamment dit, notamment au match aller contre le Barça où ça manquait clairement de présence dans la surface, que Mbappé était bloqué, que Dembélé était obligé de décrocher, mais il manquait quelque chose. Et hier, Gonçalo Ramos donc était titulaire, a marqué un doublé, 10 buts en Ligue 1 hein, pour le temps de jeu qu'il a, c'est quand même un très très bon ratio. Et il a montré tout ce que voilà, on loue de Gonçalo Ramos depuis dès qu'on le voit jouer. Et ça montre encore une fois qu'il marque des points. Et que Luis Enrique voilà, peut réfléchir à titulariser Gonçalo Ramos dans les échéances à venir.
Ouais, je ne suis pas sûr que ce match-là change la saison de Gonçalo Ramos. Ce qui est sûr, c'est que quand tu as un joueur comme lui, tu joues aussi avec un 9 quand c'est Mbappé et qu'il est dans l'axe. Hein. Que tu le veuilles ou non, il joue 9, mais ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques. D'abord, effectivement...
Ah oui, mais il ne reste pas dans la surface, Mbappé.
Non, mais
tu
regardes la différence, effectivement. Mbappé, lui, va chercher les couloirs, ce que fait pas Gonçalo Ramos. Mais par contre, les déplacements de Gonçalo Ramos sans ballon, ils sont très intéressants. Il est jamais non plus en train de camper en neuf. C'est quelqu'un qui propose énormément. Les deux choses qui changent vraiment fondamentalement, c'est d'abord, effectivement, c'est un pur avançant qui sent le but, qui sent les coups et qui est souvent bien placé, comme sur le quatrième but hier. C'est aussi un joueur qui a la capacité effectivement d'aller récupérer des centres et son jeu de tête, il est connu. Mais surtout au-delà de ça, et pour moi c'est la plus grande différence avec Mbappé, c'est que c'est un joueur qui fait des courses dans le vide. Il appelle pas systématiquement, il fait pas toutes les courses de Gonçalo Ramos ne sont pas destinées à recevoir le ballon. On le voit sur le quatrième but justement, et Yacine en parlera tout à l'heure. L'appel dans le vide, c'est ce qui permet de libérer de l'espace à gauche. Et ensuite, bon, il se trouve qu'il est à la réception de l'action, mais ça aurait également pu permettre à un autre d'aller au bout. Mais tu vois pas ça avec Mbappé. Mbappé aujourd'hui, tous les appels de balle d'Mbappé sont destinés à récupérer le ballon et absolument pas à libérer des espaces pour les autres joueurs. Donc pour moi, c'est la différence vraiment fondamentale entre ces deux profils. Au-delà, effectivement, après, de cette qualité de pur buteur, les qualités d'Mbappé, c'est des qualités que n'a pas aujourd'hui Ramos, et vice-versa, c'est évident que c'est un joueur qui a un peu plus un côté tueur. Après, juste une toute petite parenthèse sur ce qu'on disait avant, tu as effectivement un beau match parce que Lyon vient avec des ambitions très, très, très affirmées en première mi-temps. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires élogieux sur Lyon qui vient effectivement pour faire du jeu. Pour moi, Lyon se trompe complètement dans sa composition d'équipe, justement. Alors bravo, tant mieux, ça nous a permis d'avoir un beau spectacle. Mais ce que fait Pierre Sage hier, c'est vraiment du suicide collectif. Je pense qu'il s'est complètement planté dans sa composition d'équipe de départ. Tu peux pas te permettre de donner autant d'espace à une équipe comme Paris. Alors c'est bien beau de dire que tu veux les priver de ballon parce que c'est la meilleure manière de défendre, mais tu prives pas du PSG le PSG de ballon quand tu as une qualité technique aussi faible que les Lyonnais hier. Donc pour moi, la première mi-temps du PSG, on peut aussi remercier Pierre Sage qui se plante vraiment dans les grandes lignes.
Alors, pour le coup, et je vais donner la parole après JB, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Nico, sur Lyon, parce que quand il y a des équipes qui viennent mettre le bus et qui en prennent 3 ou 4, on dit qu'ils n'ont rien tenté, etc., ils ont bloqué le jeu, etc., et quand il y a une équipe qui vient jouer à volonté en mettant 4 joueurs offensifs, alors oui, tu l'as dit, c'est sûr qu'avec 2 joueurs au milieu, tu t'enlèves un milieu de terrain, et donc ça t'a pris des contres hier, etc. Et je trouve que moi, les Lyonnais, ils ont quand même mis en difficulté le PSG. Il y a plusieurs arrêts de Donnarumma. Il y a un poteau, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus qui fait le poteau, mais il y a des occasions assez énormes pour Lyon. Et s'ils en mettent un deuxième avant la pause, c'est pas illogique.
Alors, il y a 4-1 à la mi-temps, je rappelle. Donc, tu ne peux pas dire que la première mi-temps, elle est bonne de Lyon. Ouais. Et encore une fois, moi aussi, on peut monter une équipe par United en mettant Mousse avant. Non, mais écoute, on peut mettre Mousse avant-centre, on peut mettre JB au but parce que c'est le plus grand de tous. Enfin, on peut se faire une équipe et on peut dire, on va avoir la volonté de prendre le ballon au PSG. C'est pas la volonté qui va nous permettre de le faire, tu vois. Je pense que Lyon, avec les qualités de cette équipe-là, n'avait absolument pas les moyens de priver le PSG de ballon. Quand tu donnes autant d'espace avec en plus un pressing relativement désordonné. Encore une fois, moi, je maintiens que Lyon s'est vraiment planté hier. Oui, avec le ballon, ils ont des joueurs de qualité.
Oui, mais défensivement.
Ah ben oui, mais tu peux pas, ne pas corréler l'attaque et la défense.
Mais après, il faut
un match de foot, c'est les deux. C'est un équilibre entre ton attaque et ta défense. Après, oui, tu peux mettre 5 attaquants et puis ne pas défendre et dire, bah ouais, quand on a attaqué, on a été bon. Bah ouais, mais t'as pas défendu, t'en as pris 5. Donc, tu vois, c'est, pour moi, encore une fois, les équipes qui font mal au PSG au Parc, c'est souvent le bus parce qu'effectivement ça te prive d'espace et après sur une ou deux transitions ça va te piquer. Alors c'est pas beau, ça nous énerve tous, mais il faut aussi être capable de mettre sur le terrain une tactique par rapport à ta qualité de joueur, ta qualité de collective. Et les Lyonnais, je pense qu'ils se sont vraiment emballés hier. Ils restaient sur les retournements de situation parce qu'ils font, il faut le dire, une belle année 2024. Mais je pense que Pierre Sage hier arrive avec une compo beaucoup.
C'est la meilleure équipe en termes.
C'était la meilleure.
En termes de points, ils sont devant le PSG. Hein.
Plus maintenant.
Oui, c'était du coup. Mais ouais, parce que non, mais Lyon, c'est vrai qu'ils sont sur une belle dynamique avec la victoire 4-3 contre Brest. Ils étaient sur une belle série. Ils avaient gagné ils ont gagné contre Nantes aussi. Voilà, bref, ils étaient sur une belle série. Donc moi, je comprends en tout cas que Pierre Sage ait voulu faire ça hier, même si évidemment c'était un peu désorganisé. Défensivement, surtout défensivement, qu'ils ont loupé leur match. Mais j'oublie pas qu'il y a quand même des occasions. À un moment, Nouama, 2-3 fois, il dribble Beraldo sur la gauche. Et il faut quelques parades de Donnarumma. JB, sur Gonçalo Ramos, il a montré aussi un peu toute sa palette. Hein, la tête sur le centre d'Hakimi est parfaite. Le quatrième but, il fait un appel dans le vide, comme le disait Nico, et libère l'espace pour Asensio qui peut aller sur la gauche. Alors, on a vu encore une fois quelques flèches en plus de son arc Gonçalo Ramos. Bah, quelques cordes de plus de son arc, mais des flèches, ouais. Pas des flèches.
Bon, les flèches, la corde, tout ça, on a compris. Quoi.
Dire la bonne expression. Vous avez compris. Quoi.
C'est intéressant de voir d'abord que c'est une arme supplémentaire pour Lucien Riquet d'ici à la fin de saison. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir d'autres options en dehors d'Mbappé, cette dépendance qui était la nôtre. Les absents ont toujours tort, on l'a vu hier, mais les présents aussi sont signalés. Il y en a un qu'on n'a pas forcément vu à la hauteur, en tout cas qui a encore du mal à confirmer, c'est Kolo Muani. Moi, ce que j'ai aimé avec Ramos, c'est que c'est des types d'actions qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu ce type d'action aussi à Paris. Et quand tu vois sa capacité à aller chercher en extension la frappe et à marquer d'un tacle, on n'aurait pas forcément vu Kylian être là et faire ça. Je trouve que ça permet plus de variété, ça permet aussi d'avoir finalement une capacité à exploiter d'autres types de situations, a fortiori que les centreurs qu'on a. Et donc, c'est une vraie bonne nouvelle sur les quelques matchs qui vont rester là, qui sont importants, à commencer par les deux demi-finales contre Dortmund, parce qu'il va falloir avoir ce type de joueur aussi, quand on les voit évoluer, quand on les voit jouer. Et puis en finale de coupe, on sera ravis de l'avoir aussi pour encore une fois traumatiser l'arrière-garde lyonnaise, qui va sûrement le regarder autrement.
Yacine, pour aller un peu dans le prolongement du débat, c'est vrai qu'hier, tu as Gonçalo Ramos en 9, Mbappé est sur le banc, il n'est pas rentré d'ailleurs, hein, il a laissé se reposer Luis Enrique, et tu marques 4 buts en première période, mais sur le match, donc comme quoi tu peux marquer et livrer des prestations collectives intéressantes sans avoir besoin de ton meilleur joueur. Ça montre encore une fois que Paris, voilà, Luis Enrique prépare la semaine prochaine et que tu peux jouer sans qu'il y ait Mbappé et livrer des belles performances. Alors après, j'ouvre le débat, hein, parce que comme j'ai vu plein de débats hier sur le fait que Paris ne pouvait pas se passer de Kylian Mbappé, etc., que c'était pas forcément adéquat en Ligue des Champions, que tu avais besoin de lui, etc., bah, c'est quand même une preuve de plus. Alors Lyon, c'est pas Dortmund, etc., mais voilà, c'est une piste.
Ouais, c'est pas Valladolid, c'est pas Rijon. Non, mais en fait, il y a plein de choses. Je vais essayer d'être clair parce qu'apparemment, sur Twitter, je dois pas parler, je dois pas très bien écrire français, donc je vais essayer de me faire comprendre. Contre Lille, tu marques 3 buts. Contre Marseille, tu marques 4 buts. Hier, tu marques 4 buts. Sans Mbappé. Le premier truc, c'est que moi, je répondais déjà à ça, à tous ceux qui nous expliquent. On en a parlé avec Nico parce qu'on avait rigolé il y a 15 jours, 3 semaines sur sans Mbappé, vous seriez 17e. Sans Mbappé, vous gagnerez aucun match. Sans Mbappé, bon, t'as quand même tapé Marseille, Lyon qui a pris le plus de points en 2024 et Lille qui est une des meilleures équipes du championnat. Sans Mbappé, bon, ça va quand même. Je veux dire, on n'a pas tapé Lorient, Clermont et Metz. Donc, déjà, première chose. La deuxième chose.
Non, pas Metz. Il ne faut pas critiquer Metz.
Ah ouais.
Après, il y a le président qui n'est pas content, donc pas Metz. Lorient.
C'est vrai.
Ni le Havre. Ni le Havre, il faut faire attention, il est susceptible, aussi.
C'est le. Oui, c'est... oui, c'était le Havre. Tu t'es pas bourré,
le Havre, pardon. Oui, ouais, le Havre.
Mais je... Metz a battu
ouais, le Havre. Ouais.
On appelle ça des relégables. Hein, donc,
Ouais, d'ailleurs, Metz, ouais, t'as. Ouais, Metz a battu le Havre 1-0 et c'est le Havre qui passe premier relégable. Voilà, petite parenthèse.
Et donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a un travail. Il y a un travail collectif. Ramos. C'est évidemment les buts et tout, on va y venir, mais c'est aussi un repositionnement qui empêche les premières relances de l'adversaire et donc au bloc équipe de se remettre en place. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Il y a tout ce qu'a dit Nico sur les courses à vide, etc. Il y a un autre élément, on voit d'ailleurs sur le but, c'est qu'on peut centrer, de mettre des centres aériens. La plupart du temps, quand il n'y a pas de neuf, il y a des centres, mais c'est des centres en retrait. C'est des fois des passes intermédiaires pour aller chercher à l'intérieur le joueur. Mais on a très peu de centres. Hier, Hakimi se permet de se centrer en levant le ballon parce qu'il sait qu'il y a Ramos dans l'axe. Donc, Ramos met une très belle tête, comme l'a dit JB. Il faut aussi souligner la qualité de centre de Hakimi parce que son centre, il est parfait. Mais il se permet de se centrer parce qu'il y a un neuf. Et quand on avait parlé de Barcelone, en dehors de la qualité du match retour, etc. On avait dit aussi qu'en première mi-temps, malgré tout, il y a eu des situations de centre où ça manquait de présence devant le but. Donc, tout ça, c'est intéressant. Ça donne une palette de plus. Et là, on le voit, par exemple, ça peut être une palette en début de match, ça peut être une palette aussi en cours de match. Demain, le PSG est mené à Dortmund. Peut-être qu'avec un neuf et un repositionnement de certains joueurs, eh ben, tu seras mieux. En fait, c'est ça que travaille Enrique. C'est le fameux plan A, B, C, D. Alors lui, il en a plein parce que les joueurs en plus sont interchangeables dans les systèmes. Donc lui, c'est des A, B, C, D, E, F, G, H. Mais en fait, c'est ça le travail d'un entraîneur et c'est ça qui est intéressant. Donc Ramos répond présent. Ramos a vécu aussi un passage à vide, mais qui était dû à un virus. Il l'a expliqué, il a eu du mal, il a maigri, il a souffert, etc. Donc peut-être qu'il serait encore mieux aujourd'hui s'il avait pu être utilisé un peu plus souvent à un moment donné. Voilà, il a pris le dessus en termes de numéro 9 sur Colomoini parce qu'il y avait quand même une concurrence au départ. Donc, c'est tout ça. Et c'est là que je vais venir sur le quatrième but parce qu'il y a le travail de Ramos, mais il y a tout un travail qui est intéressant sur ce quatrième but parce que c'est Ramos qui le finit. Donc, puisqu'on parle de Ramos, on va finir là-dessus. Il y a déjà la sortie de balle. Et en fait, le ballon va arriver à gauche et on voit là, j'ai entouré
donc là, c'est deux joueurs. C'est le quatrième but hein, pour ouais, expliquer. Ouais. C'est le quatrième.
Les deux joueurs qui sont parés, c'est en fait Vitinha.
Celui qui trouve le ballon gagne un abonnement à Paris United.
Là, je l'ai mis, c'est là où c'est entouré en blanc.
D'accord.
Donc là, c'est Vitinha et Asensio en fait qui sont très proches l'un de l'autre. Et premier élément, ce qu'on a reproché longtemps aux équipes du PSG de ne pas courir, de ne pas courir sans ballon notamment, là, il va se passer quelque chose. Sur l'image suivante, on va voir, c'est que Asensio va faire la course vers l'avant. Ce n'est pas dit qu'il puisse être servi ou pas, on ne sait pas là. En tout cas, il fait cette course. Et du coup, il ne reste pas collé bêtement à Vitinha en attendant que ça se passe. Donc, il amène le Lyonnais avec lui. On voit, il y a un Lyonnais entre les deux. Avec cette course, il emmène le Lyonnais avec lui. Du coup, il libère Vitinha. Le ballon ressort et il va arriver donc, ensuite sur Vitinha. Et là, Vitinha, c'est aussi la technique. C'est aussi, et j'aimerais parler vite fait de la confiance que Luis Enrique a donnée à ses joueurs. Vitinha en a parlé après Barcelone. Tu vois, d'ailleurs, le fameux Pilou dans le chat qui nous demandait de nous excuser à propos sur Vitinha par rapport à l'année dernière. On va s'excuser de rien du tout parce que Vitinha a progressé et il a le droit de progresser. Vitinha, il a aujourd'hui la confiance de son entraîneur. Vitinha, aujourd'hui, il n'est pas obligé de jouer avec Ney, Léo et Kylian. Tout ça additionné, désolé, je n'ai pas à m'excuser de dire que Vitinha, l'année dernière, manquait de caractère et ne faisait pas toujours les bons choix. Et bravo à lui d'avoir progressé et de s'être lâché et d'être devenu aujourd'hui incontournable. Donc, arrêtez les excuses. Quand on fait un commentaire, c'est à un moment précis. Bref. Là, Vitinha donc, va s'en sortir. Et là aussi, où c'est intéressant, dans cette confiance, c'est que j'ai mis les deux flèches jaunes. En fait, c'est deux passes que Vitinha aurait pu faire, ça. Face à Beraldo, il est face à Danilo, il est entre trois Lyonnais, il pouvait très bien ressortir le ballon en jouant vers l'arrière, sans prendre de risques. Et puis Danilo aurait peut-être allongé. Il pouvait le faire, il est doge. Il va prendre le risque. Enfin, ce que les gens appellent une prise de risque, moi j'appelle juste ça du football, parce que c'est aussi ça le foot, c'est savoir éliminer, etc. Et donc, Vitinha va éliminer les Lyonnais. Et là où il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est que les quatre joueurs que j'ai entourés, en fait, on les voit, ils sont très bien disposés sur le terrain, plus haut, dans le dos des Lyonnais, avec pas des regroupements de joueurs côte à côte, comme on a pu voir par le passé, avec des joueurs disposés à gauche, une pointe, une Zaïre Emery un peu entre les deux, mais déjà sorti de la densité lyonnaise, et Kolo Muani à droite. Parce que même si Kolo Muani n'a pas fait un bon match, sur l'action, je vais montrer quand même l'importance de ces joueurs-là, en fait, si, dans une action. Et donc, là, Vitinha va jouer vers l'avant et va chercher Zaïre Emery. Sur cette passe, Vitinha, il élimine 5 Lyonnais. Voilà. Et donc, je ne vais pas le comparer à Verratti, parce qu'en fait, je m'en fous. Mais Verratti expliquait souvent que quand il tentait des passes, c'est parce qu'il voulait créer du déséquilibre et éliminer des joueurs, etc. Et pas juste donner un ballon à un joueur à 3 mètres et dire « vas-y, débrouille-toi ». Donc, c'est ce que fait Vitinha dans sa façon de se retourner, de chercher Zaïre Emery. Là, Zaïre Emery va percuter parce qu'il y a de l'espace devant lui. Et comme le dit Nico, évidemment, qu'on peut noter aussi le positionnement des Lyonnais, tu n'as pas le droit de laisser un espace comme ça ouvert plein axe sur une action à la 40e. Ce n'est pas possible, surtout quand tu es revenu à 3-1 et que le match peut basculer. Bref. Donc, Zaïre Emery va percuter et c'est là où il va se passer des choses. Les courses qu'on appelle inutiles ou qu'on voit moins, la course de Kolo Muani. La course de Kolo Muani a permis de fixer le latéral lyonnais. Et donc, si Kolo Muani ne fait pas cette passe, en fait, le latéral peut revenir à l'intérieur et bloquer Ramos à 2. D'accord ? Ou libérer Kaletatsar. Du coup, il est obligé de rester sur Kolo Muani. La deuxième chose, c'est que là, à ce moment-là, quand Ramos fait son appel vers l'intérieur, il emmène avec lui O'Brien. Et comme les Lyonnais sont en déséquilibre, O'Brien, il ne peut pas gérer Asensio. Kaletatsar ne peut pas gérer Ramos parce qu'en fait là tu te retrouves à égalité numérique, t'es mort. Donc l'appel, il libère d'abord l'espace, ce que disait Nico tout à l'heure sur les appels à vide, et il permet à Asensio finalement d'avoir un énorme espace devant lui parce que Ramos a attiré les joueurs. Bon là le problème c'est que c'est en vidéo, c'est mieux, mais bon, en fait si Kolo Muani n'avait pas fait la course, j'ai mis le latéral lyonnais qui aurait été à l'intérieur. En fait, tout le monde aurait décalé. Et du coup, Asensio serait retrouvé en 1 contre 1 avec O'Brien. Sauf que là, il est complètement libre. Et du coup, quand O'Brien décide d'y aller, parce qu'il est obligé à un moment donné d'aller sur Asensio, il ne peut pas laisser le porteur de balle complètement libre, et ben, tout le décalage a été fait. Et donc, c'est à ce moment-là que... c'est pas passé. Attends. Si, c'est passé. Et c'est à ce moment-là... Voilà, qui va donc aller chercher Asensio. Et à ce moment-là, Ramos se retrouve tout seul. Parce que Kaletatsar est dépassé parce qu'il ne sait pas qui gérer. L'autre s'est fait aspirer et d'un coup, il doit réagir pour ne pas laisser le porteur tout seul. Et donc, il décale à contre-temps. Kolo Muani qui a fixé le latéral, il ne permet pas au latéral de venir fermer sur Gonzalo Ramos. Et, bon alors, avec un peu de réussite parce qu'il est obligé de tacler le ballon, mais bon, c'est pas... Voilà. Et ben Gonzalo Ramos termine.
Ouais, mais c'est un geste de buteur qui fait Gonzalo Ramos de tacler pour venir prendre le ballon comme ça.
Voilà, donc à l'arrivée, tu as un Gonzalo Ramos qui peut tacler parce qu'il est tout seul, il n'est pas à la lutte avec un défenseur. Là, le défenseur que j'ai mis à côté de Ramos, c'est si Kolo Muani n'avait pas fait la course. En fait, le latéral, il aurait été ici à ce moment-là et peut-être qu'il aurait contré Ramos. Donc tout ça, alors moi, je veux bien qu'on nous explique que les joueurs. Mais ça, c'est quand tu vois des courses coordonnées comme ça, quand tu vois des contres qui sont menées avec chacun des positions et des rôles. Mais en fait, ne nous expliquez pas que c'est le hasard. Évidemment que c'est le travail du coach. Et je pense que là où est la force d'Enrique, en plus de tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que, en fait, il a réussi à trouver le juste milieu entre la possession et la transition, parce que cette équipe a quand même des qualités de transition qui sont très fortes, mais il a réussi à trouver un mix entre les deux, et en gros, c'est un peu le scénario du match qui dicte ce que tu vas faire un peu plus ou un peu moins. Voilà, et tous les joueurs sont importants dans cette action, parce qu'il y a des courses qui permettent à d'autres joueurs d'être libres. Voilà.
Bravo Yacine, belle démonstration. Merci. Magnifique sur le quatrième but de Gonçalo Ramos. Rien à dire. JB, Nico, on peut applaudir. Hein. Franchement.
Surtout, je trouve que c'est bien ce concept de la minute coach avec du public. Ça change, c'est sympa. Par contre, vous nous dites quand on peut parler, nous. Hein.
Ben c'est bon, j'ai fini.
Okay. Bon, on va arrêter
Nico. Vas-y, Nico, tiens. Il y a quelqu'un, eh ben, Nico, tiens,
il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais trop parlé la semaine dernière. Donc, merci.
Non, c'était très bien. C'est intéressant.
On va envoyer la séquence. Bravo, Yacine.
Et on va envoyer la séquence à nos amis sur d'autres médias, mais je ne peux pas donner de nom parce qu'après Hugo, il nous dispute. Donc, on va envoyer la séquence.
Ouais. Calme-toi, Nico, calme-toi. non, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? J'ai une question, Nico, peut-être Nico et JB, vous allez pouvoir peut-être, je vous la propose, de Mathieu Collot sur le chat, qui nous dit question sérieuse. Est-ce que la suppression de la Coupe de la Ligue et le fait que la Ligue 1 soit passée à 18 clubs n'a pas permis d'avoir des semaines d'entraînement un peu plus complètes, alors qu'avant, c'était surtout de la récupération? Alors bon, en ce moment, le PSG joue tous les 3 jours, donc peut-être pas en ce moment, mais sur la saison, on s'en ensemble. Nico, JB, chacun votre tour, allez-y.
Je prends la parole, JB, excuse-moi. Il y a 4 matchs de moins en Ligue 1, il y a potentiellement, je ne sais plus si on rentrait déjà, on rentrait en quoi en Coupe de la Ligue, nous? On rentrait en demi, nous, non, quasiment, donc... C'était la Coupe de la Ligue, on jouait pas beaucoup, nous.
Hein. Bah,
donc, non, mais oui, t'as 4-5 matchs en moins. Donc, effectivement, il y a eu quelques semaines de travail complet. Donc, oui, ça, je pense que ça change. Après, au-delà de ça, on est quand même là au mois d'avril. On a un coach qui est très, très tourné sur la technique. Et je pense pas que si tu avais mis Galtier à la place de Luis Enrique cette saison, on aurait vu ça aujourd'hui. Tu vois, il y a aussi quand même la patte du coach. Ce qu'il veut faire de son équipe, la manière dont il veut les faire jouer et puis la manière dont il met tout ça en place. Donc, je pense que surtout, encore une fois, l'absence de... Enfin, 4 matchs en moins et puis une Coupe de la Ligue en moins, je pense que l'impact le plus important, c'est sur la fatigue des joueurs et donc le risque de blessure. Je pense surtout qu'il est là l'avantage. Après, les années précédentes, une équipe comme City, ils jouent 60 matchs par an... Tu vois le travail tactique que Guardiola met en place, tu te rends compte qu'il y a la place de travailler dans une saison. Donc c'est, je pense pas que c'est pas ça. Par contre, ouais, ce côté fraîcheur aujourd'hui et puis peu de blessures, voilà, ça joue surtout là-dedans, je pense, plus que sur les possibilités de travailler.
Hugo, juste parce qu'il y a,
il y a des gens qui sont contents. Hein. T'as vu Yacine, il dit la minute coach gratuite pour tous. Ouais, voilà, c'est un petit aperçu de ce que Yacine, vous savez déjà, vous l'avez déjà vu sur le podcast, hein, sur la chaîne YouTube, mais ça rentre dans la formule d'abonnement. Yacine fait des minutes coach encore un peu plus longs, encore plus disséquées, notamment sur le match aller face au Barça.
Juste un commentaire qui est intéressant.
Yacine, tu veux rajouter quelque chose et après j'irai voir JB. Ouais.
Brice Léo qui dit sur ce but, il y a aussi le fait que Zahir Emery aille bien fixer la défense pour attendre le bon moment. Il y a des joueurs qui donnent souvent le ballon trop tôt, et ça, c'est vrai. J'en parle pas sur celle-là, sur l'action, parce que je voulais insister en fait sur l'appel de Ramos et tout. Mais effectivement, Zahir Emery, il aurait pu donner le ballon tout de suite à gauche parce que Asensio est libre. Après, il aurait été moins libre, mais il était libre. Et effectivement, le fait de conduire son ballon sur 10-15 mètres, c'est ce qui oblige la défense un peu à être dans le doute en se disant est-ce qu'il lâche à l'intérieur, est-ce qu'il lâche vers Asensio, est-ce qu'il lâche peut-être même vers Kolo Muani, est-ce qu'il va perdre. Du coup, c'est aussi la façon de fixer qui permet d'attendre la bonne course, le bon moment pour libérer Asensio. Donc évidemment que c'est très important ce que dit Brice Léo et que c'est aussi un moment important de l'action.
JB, il y a un commentaire aussi d'Alexis H, un abonné hein, qui a la petite pastille bleue. On vous reconnaît hein, les abonnés sur le chat hein, parce qu'on sait que voilà, avec cette petite pastille bleue, vous êtes abonné. Donc merci à vous. Il nous dit Alexis H qui nous dit ce mix possession transition permet à l'équipe de Luis Enrique d'être imprévisible comme il le souhaite et l'a toujours voulu depuis le début de saison. C'est vrai que c'est une donnée importante du coup par rapport à la préparation des adversaires sur les matchs du PSG, de jamais savoir le 11 qu'il va y avoir ou même de savoir comment Luis Enrique va procéder.
Pierre Sage en parlait dans son interview dans l'équipe, hein, qui au demeurant était assez intéressant justement pour ça, parce qu'il mettait le doigt justement sur cette imprévisibilité qui faisait finalement l'une des forces du Paris Saint-Germain en dehors de ses individualités. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un plan de jeu monolithique avec derrière une organisation qui serait toujours la même. Et à part nous faire rentrer Kurzawa, qui serait vraiment une énorme surprise, on arrive à avoir une mobilisation de tout l'effectif avec des performances, et on voit des joueurs progresser. C'est là aussi où je pense que la dynamique apportée par le coach, le fait d'avoir peut-être un peu plus de temps pour récupérer, ça permet par exemple à un Warren Zaïre-Emery de reprendre finalement un peu d'oxygène, à d'autres de rester concentrés, et de savoir que même s'il y a un peu moins de matchs à jouer, ils seront tous à un moment donné concernés, et ça c'est vraiment une des réussites de Luis Enrique, je pense. Ce n'était pas forcément ce qu'on attendait en début de saison, hein, cette imprévisibilité-là, et aujourd'hui, c'est une vraie réussite.
T'as fini ta phrase ?
J'ai terminé ma phrase. C'est juste que je te voyais figé, donc ça m'a arrêté.
D'accord, ok.
Quand tu parles, ça s'arrête. Et je te vois,
Non, je sais pas, j'ai pas vu.
Excuse-nous, JB, on s'était endormi.
je me suis dit, bon, il s'est coupé en plein milieu de la phrase.
Voilà. Ah, il y a Faris Moumania. Est-ce qu'on peut revenir sur Moumania, s'il vous plaît, aussi ? Je vois Moumania qui apparaît à l'écran. Et quel joueur ? Je déconne.
Oui, parce que, alors, il a marqué le but de l'égalisation et il a marqué face à Benfica hein, cette semaine pour l'OM, donc, même s'il ne joue pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que la stat était intéressante. Merci Yacine de la mettre. C'est les joueurs donc, qui ont minimum 3 buts avec le meilleur ratio de buts avec le nombre de minutes qu'ils ont joué en Ligue 1. Et Gonçalo Ramos, hein, je le disais, avec 10 buts, est à 1 but toutes les 118 minutes. Et donc, voilà, très très bon ratio. Bon, Kylian Mbappé, il joue plus souvent, donc c'est un peu moins. On va dire, on apprend moins quelque chose avec cette stat, mais en tout cas, Moumania et Gonçalo Ramos par rapport à leur temps de jeu. Et c'est pour ça que c'était assez intéressant de le mettre pour cette thématique. On va passer à vos tops, si vous le voulez bien, messieurs, avec notre troisième rubrique dans le podcast. Et je vais venir. Directement avec toi, JB, parce qu'on va parler d'un joueur qui a fait un très gros match, on n'en a pas encore beaucoup parlé, face à son ancien club. C'était Bradley Barcola, qui pour moi, hier, offensivement, a été le meilleur, le plus percutant, le plus créatif, je peux dire comme ça, le plus tranchant, qui fait la. Il est sur la passe décisive, il me semble, sur Beraldo, parce que c'est lui qui tire le corner. Voilà, au-delà, comme quoi il n'y a pas besoin de marquer un doublé pour être aussi très bon et le noter. Et donc, je commence avec toi, JB. Ton top hier, c'est Bradley Barcola qui a fait encore une fois un très bon match.
Effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'on signale ses performances. Et hier, il a été offensif, audacieux. Il a été capable de faire des différences. Il y avait peut-être ce surcroît de motivation face à son ancien club. On l'a vu extrêmement impliqué, émotionnellement il est quand même capable de faire beaucoup de choses et on l'a vu déjà sur le premier match contre Lyon à Lyon. Hier, bon, il m'a fait vraiment plaisir parce que ça reste un gamin, c'est un gamin qui progresse très vite, c'est un gamin qui aujourd'hui apporte énormément et c'est aussi lui qui a permis de mesurer finalement le fait qu'on pouvait se passer des deux autres. Dembélé et Mbappé, hier il a été un vrai artisan de cette victoire et on l'a vu sur la première mi-temps, il est vraiment vraiment impressionnant et ce sera peut-être la surprise de l'Euro, hein, on verra, bon, c'est peut-être un peu rapide, j'attends de voir ce qu'en diront Yacine ou Nico, mais moi hier il m'a fait vraiment plaisir, je l'ai trouvé vraiment dans l'esprit, dans le ton, il n'a pas surjoué et il a été extrêmement, extrêmement actif et surtout extrêmement déterminant.
Un petit mot dessus, Nico, sur Bradley Barcola, qui a délivré hier sa sixième passe décisive en Ligue 1, qui avait déjà fait la passe décisive pour Ousmane Dembélé, hein, pour le premier but du PSG contre le Barça mardi. qui est en train de, lui aussi, qui voilà, réalise une très bonne saison et qui confirme qu'en fait, bah, il est en train de prendre une place de titulaire. Alors, c'est, il avait déjà été titulaire un petit moment, mais à un moment, il a eu un coup de moins bien. Et là, il revient bien, Bradley Barcola.
C'est un ouais, déjà, il ne faut pas oublier qu'il a 21 ans. C'est vraiment un gamin. Ce qu'il fait cette saison, c'est bluffant. Je faisais partie de ceux qui étaient assez sceptiques de sa signature. Alors, pas sur le, sur la qualité du joueur, parce que déjà, je le connaissais pas plus que vous, hein. Enfin, on avait aperçu ces quelques mois à Lyon, mais voilà, on voyait du potentiel. J'étais sceptique sur son recrutement parce que je le voyais vraiment bouché par Mbappé dans le couloir gauche et à l'arrivée, j'imaginais dans un rôle de doublure qui allait devoir se contenter de quelques miettes et surtout j'avais le sentiment que le PSG, d'ailleurs je le pense encore aujourd'hui, avait surtout des besoins au milieu de terrain et je trouvais ce recrutement un petit peu étonnant. Aujourd'hui, voilà, je me suis évidemment trompé, je l'ai déjà dit il y a longtemps. C'est un joueur qui a su saisir sa chance quand Mbappé a été repositionné dans l'axe. Et moi, ce qui fait cette saison, je trouve que c'est vraiment bluffant parce qu'on est encore une fois au PSG avec des exigences, avec un contexte qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Lyon. Et c'est un joueur surtout qui progresse. Alors évidemment que la confiance de Luis Enrique permet cet épanouissement. Avec un coach qui n'est pas derrière toi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, il est devenu titulaire dans cette équipe et c'est pas rien. C'est vraiment pas rien parce que tu le vois hier. Voilà, t'as quand même de la concurrence avec des mecs comme Ramos, comme Asensio qui peut jouer quasiment à tous les postes devant. Et aujourd'hui, on sait déjà qu'à Dortmund, il sera titulaire dans le couloir gauche parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas une équipe du PSG sans lui dans les grands matchs. Donc c'est très fort. Ça risque d'être récompensé également par une place à l'Euro parce que la blessure de Kingsley Coman fait qu'a priori, il y a des chances quand même pour lui de s'imposer dans une liste à 26 en plus. Donc ouais, pour moi, il sera appelé. Et c'est bluffant. Le tout en plus avec des nattes et des dreads qui sont devant ses yeux et qui l'empêchent de bien jouer au football, je vous le rappelle, hein, comme on nous l'a expliqué. Donc, bravo à lui, bravo à son coiffeur, bravo à tout le monde. Et voilà, je pense que c'est la meilleure recrue quasiment de cette saison au PSG quand on regarde un petit peu son temps de jeu et ce qu'il a apporté, ses progrès. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui actuellement, si ce n'est qu'il faut qu'il garde la tête sur les épaules, qu'il continue à bien travailler. Mais je pense qu'avec Luis Enrique comme entraîneur, il y a peu de chances qu'il s'enflamme. Et je pense que c'est un joueur qui a une énorme marge de progression, qui a un gros potentiel. Je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est un tout petit aperçu de ce qu'il est capable de faire. Et encore une fois, bravo à lui d'avoir su saisir sa chance dans cette saison du PSG. Ouais.
Yacine, c'est vrai que c'est bluffant quand même ce que réalise Bradley Barcola. Encore hier sur son match où il a vraiment été très très percutant. Je trouve qu'en plus il a un peu de variété. C'est pas toujours le même appel, c'est pas toujours le même crochet. Des fois il fait droite-gauche. Enfin, il est un peu illisible pour les défenseurs et c'est ça qui est intéressant. Et quand on sait que c'est Luis Enrique qui a fait le forcing hein, pour le recruter, Yacine, on comprend pourquoi maintenant. Et il le gère plutôt bien en plus parce qu'il a eu des coups de moins bien. On en a parlé dans le podcast. Et là il revient très fort.
Ouais, il a des prises de balles, mais surtout, il a cette envie tout le temps d'aller faire mal, d'aller percuter. Il y a du déchet, évidemment, et de toute façon, les offensifs ont toujours du déchet, mais il a cette envie, je crois, sa première passe vers l'arrière, elle est faite autour de la 18e ou 20e minute. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte, c'est énorme, parce que ça veut dire que le mec, il est là, franchement, pour un défenseur, ça doit faire mal à la tête. De se dire que le mec, il va jamais temporiser, il vient, il te percute, il te rentre dedans, il te fait reculer. C'est très, très fatigant. Mais là aussi, évidemment que Barcola, moi aussi, je suis comme Nico, hein, c'est-à-dire que je l'avais vu jouer à Lyon, il avait que 6 mois de Ligue 1. Voilà, j'avais un avis dessus. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est qu'évidemment, il a progressé. Mais je crois qu'il y a un moment clé, et c'est là encore où on va... être obligé de saluer le travail de Luis Enrique et je le dis parce qu'il en a parlé aussi cette semaine, donc c'est même pas de la supposition. C'est que après Newcastle, on se rappelle 70 minutes Paris contre Newcastle au match retour au Parc, c'est pas beau, il y a rien, il se passe rien. Barcola il rentre et en 20 minutes tu te crées plus d'occasions que pendant 70 minutes, tu t'en crées pratiquement 5 de fou. Et lui, il en rate, il me semble, 2 ou 3, dont 2 vraiment, vraiment, enfin, je ne vais pas dire trop facile, parce que c'est rien de facile, mais, hein ?
Il croque bien sur ce match.
Ouais, voilà. Et là, tu as Luis Enrique, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon Galtier, c'est-à-dire que tu défonces Barcola en conférence de presse parce que c'est le plus jeune et que tu lui dis que c'est de sa faute si finalement le score n'a pas basculé. Et il y a la méthode de Luis Enrique qui dit en fait, rater des buts, ça arrive. Mais par contre, il a apporté, il s'est créé des choses. Et moi, je vois des choses. Donc, quand la réussite va venir, ce sera autre chose. Mais par contre, je vais lui donner la confiance parce que moi, je vois du contenu et je ne suis pas que dans les stats, que dans la réussite. C'est ce qu'il a expliqué cette semaine. Il a expliqué qu'après le match contre Newcastle, il aurait pu l'enfoncer et que il a trouvé que c'était une bonne entrée et qu'il y avait des choses à faire. Et c'est exactement ça, en fait. Donc, la confiance aidant, le temps de jeu, les principes de jeu qui sont forts et qui te permettent de rentrer dans un collectif qui n'est pas désuni et tu dois faire un peu tout seul dans ton coin quelque chose, et ça fait passer plusieurs marches à Barcola. Et voilà, donc je pense que tout est positif. Et comme le dit Nico, aujourd'hui, quand tu fais l'équipe aujourd'hui, au mois d'octobre, je pense qu'on n'était pas beaucoup à mettre Barcola titulaire. Et aujourd'hui, le mec, il a gagné sa chance. Enfin, il a pris sa chance. Et aujourd'hui, quand tu fais une équipe, il y a Barcola dedans. Voilà, c'est tout.
Et puis, juste avant de le saisir, excuse-moi, Hugo, il faut aussi le dire, son travail défensif est vraiment super intéressant parce que c'est pas que courir et presser, c'est qu'il y a des replacements intéressants, des compensations. Tu sens qu'il assimile vraiment ce qu'on lui demande tactiquement sur le plan défensif et son rôle est très très important, comme avec Dembélé côté droit. Voilà, c'est un jeune joueur, mais c'est un joueur qui a déjà une base tactique, je trouve, très intéressante.
Nico, on va rester avec toi pour ton top. Yacine en a parlé un peu sur le quatrième but tout en image de Ramos où il est au départ de l'action. C'est Vitinha qui est en train de prendre une énorme dimension au PSG cette saison et qui avait marqué à l'aller face au Barça au retour et qui hier encore une fois a fait un très bon match dans ce poste de numéro 6 et qui prend le jeu à son compte et qui ravit tous les supporters.
Vitinha, moi, vous connaissez mon opinion sur lui. Déjà l'an dernier, alors je réponds aux copains de Yacine, là, je crois que c'était Pilou 32, là, je sais pas quoi, là, qui dit est-ce que vous allez vous excuser? Alors non, je ne vais pas m'excuser déjà parce que moi l'an dernier, j'ai toujours protégé et défendu Vitinha, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'avais expliqué l'été dernier que j'attendais de le voir dans un cadre collectif. Un peu plus solide et puis surtout débarrassé de un ou deux boulets qui privaient vraiment de toute initiative. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est un joueur qui est très intéressant tactiquement, techniquement, dans la vivacité, dans cet esprit collectif, dans les prises d'initiative. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai, vrai progrès et c'est très intéressant. Après, il se posera effectivement avec lui le seul débat aujourd'hui sur Vitinha, c'est pas de savoir s'il doit jouer, parce que pour moi, il est aujourd'hui un titulaire indiscutable, c'est de savoir est-ce qu'il est mieux dans ce rôle de sentinelle, ou est-ce qu'il est mieux un petit peu plus haut dans un rôle de 8. Je sais encore une fois que l'ami du PSG sur RMC pense que Vitinha en 6 c'est un sacrilège et que c'est même une hérésie. À l'arrivée, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un faux débat parce qu'il est bon dans les deux postes, tout simplement. Il est très bon en 6, il est très bon en 8 et que en fait aujourd'hui Luis Enrique l'utilise là où il pense être le plus important en fonction des matchs. Hier effectivement c'est lui qui sort tous les ballons, c'est lui qui donne toujours une solution, il perd jamais un ballon, il y a des passes de plus en plus verticales vers l'avant, enfin voilà, c'est un joueur qui s'épanouit cette saison, qui progresse, qui s'affirme. Et aujourd'hui Vitinha, je ne vais pas comparer avec Verratti parce que ça n'a aucun sens, mais c'est un joueur qui est en train de prendre une importance vraiment capitale dans cet effectif, et d'autant plus qu'on a quand même souvent pointé du doigt cette saison la faiblesse relative du milieu Paris Saint-Germain, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un secteur où il manque sans doute au moins un bon joueur, mais je trouve qu'entre Vitinha et Zaïre Emery, aujourd'hui, on a vraiment une paire très intéressante, et le match qu'il fait hier soir, encore une fois, il est vraiment très très bon. Je ne vais pas dire exceptionnel parce qu'il y a aussi le contexte qui rentre en compte et que ce n'est que Lyon en face malgré tout. Mais ce genre de prestations de Vitinha, on ne les voyait pas l'an dernier. Et je ne pense pas que c'était à cause de son niveau à lui, mais plutôt à cause du contexte et du cadre. Aujourd'hui, dans un cadre collectif qui est vraiment très bien défini, on voit un très bon joueur. Et donc, je ne vais pas m'excuser de l'avoir déjà défendu l'an dernier.
JB, ça montre aussi, enfin Nico le disait, que voilà, tu peux partir l'année prochaine avec Vitinha et Zaïre Emery au milieu, mais qu'il faut peut-être en recruter un troisième pour prendre la place de Fabiano Ruiz et construire là-dessus.
Bah, déjà, on a le potentiel retour de Xavi Simons. Après, on verra si nos directeurs sportifs, et j'utilise le pluriel à dessein, vont sur des Bernardo Silva ou tenter d'autres profils un peu exotiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, Vitinha prend une place qu'on ne l'imaginait pas prendre en début de saison. C'est l'homme fort du milieu de terrain. C'est lui qui, finalement, contribue à notre qualification européenne aussi. Il livre des performances qu'objectivement, on imaginait, mais qu'on n'avait pas vues. Et le voir à ce niveau-là, il y a une vraie progression parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a le coach qui est derrière, parce qu'on le laisse aussi évoluer. C'est plus celui qui se faisait rabrouer par Mbappé l'année dernière dans une équipe sans tête et sans coach. Et aujourd'hui, c'est plaisant. Après, pour la suite, on verra. Est-ce qu'il faut recruter à son poste ? Probablement pour densifier ton banc, parce qu'à un moment donné, ça va être un vrai problème si on veut continuer à être très performant en Europe. Quel profil ? Est-ce qu'on prend un 6, un 8 ? Est-ce qu'on prend quelqu'un qui est plus créateur ? Est-ce qu'on prend un petit jeune ? Est-ce qu'on fait monter quelqu'un en faisant jouer, par exemple, des gens de la réserve ? Ça, c'est une vraie question, mais Luis Enrique, de toute façon, va la trouver assez vite. Et puis, je pense qu'il y a une dernière chose avec Vitinha qu'il faut considérer, c'est qu'il nous reste les deux matchs contre Dortmund. La fin de saison peut être extraordinaire, quand même. Et si derrière, tu finis avec un quadruplé assez improbable au début de saison, tu auras du mal quand même à le mettre sur le banc ou à le faire moins jouer l'année prochaine.
Yacine, tu ferais comment, toi, pour la saison prochaine ? Tu garderais Vitinha en 6. C'est vrai qu'il y a le retour de Xavi Simons. Et les gens en parlaient en plus de JB sur le chat. Comment tu articulerais ton milieu de terrain avec Vitinha, Zaïre Emery ? Est-ce que tu recrutes un 8, un 6 ? Tu comptes sur Xavi Simons ?
Mais en fait, je pense que le truc, c'est que ça fait quand même 3 mois qu'on explique que pour Luis Enrique, il n'y a pas de poste fixe. Donc en fait, tu laisses Vitinha aussi sur certains matchs. Et tu vois, par exemple, le match de la Real Sociedad, il a tenté Ruiz, ça ne marche pas. Il remet Vitinha. Moi, je pense que la prochaine recrue, ce sera un profil type Guimaraes, c'est-à-dire un joueur qui est capable de jouer aussi 6 et 8. Et en fait, en fonction des matchs, de la tournure des matchs, des actions, eh ben, Vitinha sera 6 et des fois, ce sera Guimaraes. Des fois, ce sera Guimaraes 8. Des fois, ce sera Vitinha 6. Voilà, moi, je pense que c'est... l'idée de Luis Enrique, c'est de ne pas avoir des joueurs complètement fixes et te dire je peux faire autre chose avec parce que lui est capable de jouer là, lui est capable de jouer là, lui est capable de s'adapter. Donc voilà, maintenant ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui dans cette équipe, il est indispensable en 6 parce que c'est lui qui te permet de sortir les balles. Et peut-être que l'année prochaine, tu joueras peut-être pas avec un 6 point de basse et tu joueras avec 2-6, peut-être dans un 4-2-3, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour dire que. Je pense qu'il faut, aujourd'hui avec Luis Enrique en tout cas, et tu vois, parce qu'on parle beaucoup de Mota pour la suite, mais Mota il est dans la même idée de jeu, dans les déplacements et tout, je pense qu'il ne faut pas se dire, il faut ainsi, tu vois, je vais caricaturer, mais on va prendre Casemiro, voilà. Parce que du coup, le mec ne peut jouer qu'en 6. C'est le fameux 6 devant la défense, etc. Je pense qu'il faut continuer dans cette idée de joueur capable de jouer dans différents systèmes, dans différents postes, dans différents rôles, et les laisser s'exprimer. J'ai expliqué contre Barcelone que Vitinha, s'il est là-haut au moment de la frappe, c'est aussi parce que Zaïre Emery le protège. Donc en fait, il est 6 quand on sent le ballon, mais finalement, est-ce qu'il n'est déjà pas 8 quand on a le ballon en jouant plus haut ? Voilà. Je pense qu'il faut les laisser un peu aussi s'exprimer. Moi, j'en ai un peu marre de ce football rigide. Tu sais, l'ailier droit à droite, lui, le demi-espace droit, et vas-y, il reste dans sa zone. Laissez les jouer, et puis voilà, quoi.
Bah, d'ailleurs, Yacine, c'est ce que Luis Enrique avait dit dans son interview avant le match aller contre le Barça, où il avait expliqué que lui, il avait besoin de joueurs qui pouvaient jouer à différents postes et qu'il critiquait un peu les gens qui disaient « Ah, moi, je peux jouer que là, je peux jouer que ce poste-là. » Et non, il faut pouvoir jouer 1, 2, 3 postes. Luis Enrique, d'ailleurs, en étant joueur, hein, il a démarré au Barça, il était arrière droit. Voilà. Il est passé ensuite au milieu de terrain. Et il est gauche, et il est droit, il a fini attaquant. Donc, il a fait tous les postes.
Mais voilà, donc il reproduit ce que lui, il aimait, ce que lui, il savait faire. Et je pense aussi que, tu sais, on pense des fois que juste un changement de poste, c'est dans un même système. Mais par exemple, si tu as Zaïre Emery couloir droit ou Zaïre Emery à l'intérieur du jeu, c'est pas la même chose. Donc, tu inverses des fois juste deux joueurs et ça pose un problème à l'adversaire. Donc, c'est pas qu'une question. Enfin, c'est une question de profil à chaque poste. Il y a des choses différentes qu'on va te demander. Tu vois, quand Barcola, il joue à droite, il attaque d'une certaine façon. Quand il joue à gauche, bah, il attaque d'une autre façon. Et pourtant, c'est toujours Barcola. Donc, c'est ça qui est important.
Et il y a des gens sur le chat, hein, qui me le rappellent, effectivement. C'est vrai qu'il y a Gabriel Moscardo, hein, qui doit arriver au PSG la saison prochaine, le milieu des Corinthians. Donc, ça ferait déjà deux recrues, hein, au milieu de terrain avec Xavi Simons et Gabriel Moscardo. Donc, à voir Luis Enrique ce qu'il fera avec tous ces milieux-là. Puis, il y aura évidemment aussi des départs au milieu. Hein, je pense peut-être à Carlos Soler, à Fabien Ruiz. Vas-y, Nico. Oui, j'allais lui donner.
Ouais, je lève la main maintenant. non, ce qui... Je trouve quand même que dans ce milieu du PSG...
Non, mais je t'ai vu.
Ouais, je sais. Ce milieu du PSG, je trouve quand même qu'il serait intéressant... Alors, effectivement, Simons va faire un bien fou. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très, très Luis Enrique compatible sur ce qu'on voit cette année à Leipzig. Donc, évidemment que c'est un joueur qui va avoir beaucoup de temps de jeu et d'importance l'an prochain. Le petit Brésilien, on le connaît pas encore, donc on ne va pas juger. Puis bon, voilà, c'est encore un joueur qui va débarquer comme ça, donc... Je pense qu'il faudra aussi peut-être mettre un peu de côté. Par contre, je trouve qu'il manque malgré tout dans ce PSG un ou deux joueurs avec un profil un petit peu plus, on va dire, je vais pas dire puissant, mais voilà, quelqu'un qui allie des mecs un petit peu plus balèzes quand même, tu vois, un peu plus costaud. Ça te manque un petit peu quand tu veux mettre de l'impact. Alors, je veux pas rentrer non plus dans le cliché complet. Ouais, peut-être. Dans ce profil-là, peut-être. Voilà, peut-être dans ce profil-là, effectivement, mais. Mais toi,
le mec, il va t'envoyer une ou deux boîtes quand il faut un peu.
Ouais, quand t'as besoin, c'est toujours bien. Et puis après, de toute façon, Luis Enrique, c'est quelqu'un qui a un petit peu ce côté architecte qui va te bâtir des choses. Et donc, t'as besoin de lui donner de la matière pour faire ça. Et tu vois, moi, si l'an prochain, alors, on va me dire qu'il y en a qui sont un peu en fin de carrière, qui sont un peu moins motivés, mais alors, eux ou d'autres, mais tu prends des mecs du profil de Bernardo Silva, de Kimmich, de Guimarães, toi, c'est des joueurs très intéressants. Tu mets des mecs comme ça dans l'effectif et tu peux être certain que Luis Enrique, il va optimiser tout ça. Donc, je pense quand même qu'il faudra recruter au milieu. Après, effectivement, c'est pas l'idée de dire il faut absolument un 6 ou il faut absolument un 8. Non, il faut juste avoir des profils, des mecs sur lesquels tu peux t'appuyer. Et puis, oui, comme le dit Vincent Niel, oui, des mecs costauds. Ouais, un mec costaud au milieu, je pense quand même que ça fait du bien. Encore une fois, sans rentrer dans les clichés ou dans des profils complètement définis, mais avoir peut-être encore justement plus de possibilités avec des joueurs qui ont des caractéristiques un petit peu différentes, parce que je trouve que le milieu du PSG aujourd'hui, il est assez uniforme dans ces profils-là. Voilà. Même si Zaïre Emery a de la puissance, même si Vitinha a de la vitesse, ou Garté a un côté aussi un petit peu grinta, mais voilà, je trouve qu'on est quand même sur des joueurs avec des profils et des gabarits assez similaires. Le seul grand qu'on a, c'est le mec le plus lent du monde, Fabien Ruiz. Alors, il est gentil, il est élégant, mais voilà, toi, j'aimerais en gros un Fabien Ruiz, mais qui n'est pas bloqué, quoi, qui est capable de passer à une vitesse supérieure. Quoi.
En tout cas, t'as relancé
ton mec costaud. On va parler d'un... Ouais. Par contre, j'ai pas dit des mecs costauds et huileux. Hein. Le coup de l'huile, c'est... j'ai absolument pas dit ça. Je m'inscris en faux complètement. Hein.
Bon, on va passer au dernier top des chroniqueurs. On va faire plus court dessus. Je vous lancerai pas JB et Nico dessus parce qu'on a bien développé sur Barcola et Vitinha. C'est le top de Yacine que tu as pris. Marco Asensio, qui est le passeur, tu l'as montré sur les images tout à l'heure, passeur sur le dernier but de la partie pour Gonçalo Ramos, qui était dans le milieu de terrain hier.
Ouais, je vais faire court. En fait, moi, j'ai aimé son match dans l'intelligence. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Moi, j'ai déjà dit de toute façon, Asensio, c'est un très bon joueur de football. C'est un joueur très intelligent, qui a deux lacunes, entre guillemets. c'est les blessures, malheureusement, parce qu'il est trop souvent blessé. On l'a vu cette année, hein, il a quand même été beaucoup blessé. Il a raté pratiquement les trois premiers mois de compétition. Et puis le deuxième, c'est pas un genre de caractère qui va te faire basculer un match parce qu'il va prendre le jeu à son compte. Par contre, quand les principes sont forts, quand le collectif est installé, c'est un très bon joueur de foot. Oui, il y a quelqu'un qui dit Asensio est coupable sur le but encaissé. Oui, c'est vrai, c'est lui qui sort pas sur le porteur de balle et la frappe, mais c'est un vrai joueur de foot et ses déplacements sont intelligents, sa qualité technique elle est propre. Voilà, moi j'aime ces joueurs parce que en fait, tu vois, c'est aussi pour moi ça, c'est les joueurs importants. C'est-à-dire que on parle beaucoup, tu sais, des recrues, Lee et tout. Moi, je suis désolé, entre Lee et Asensio, il y a pas photo. Il y en a un qui est un vrai joueur de foot. Et moi, j'aime ces joueurs parce qu'on avait besoin aussi de ces joueurs de rotation, de ces joueurs de... Alors, quand on connaît la carrière d'Asensio, c'est un peu dur de dire ça, mais malheureusement, les blessures ont fait que c'est devenu un joueur de rotation et ça aurait pu être un titulaire indiscutable dans beaucoup d'équipes. Mais voilà, mais c'est un joueur qui pue le football, c'est un joueur qui est capable. Voilà, il a joué dans les trois du milieu hier quand même, alors que c'est quand même un joueur plutôt offensif à la base. Il a déjà joué faux neuf en début de saison. On avait loué aussi ses premiers matchs en faux neuf. Il était très bon, très intelligent dans sa conservation de balle, dans les décalages. Donc voilà, les joueurs qu'on aime parce que c'est des joueurs de collectif, c'est des joueurs de rotation. Et juste vite fait, je fais une petite prolongation sur Mayulu. C'est aussi ce qu'on attendait d'un coach du PSG. Parce que l'année dernière, on a réclamé du temps de jeu pour les jeunes à certains moments. Et certains nous disaient « Ouais, mais vous êtes tout le temps en train… » de vous enflammer sur les jeunes. Non, on s'enflamme pas sur les jeunes. Il y a des jeunes au PSG qui ont du talent. Mayulu, il en fait partie. Et hier, il fait une bonne entrée. Les prises de balle, elles sont bonnes. Il joue au foot, etc. Mais l'entrée de Mayulu, elle montre encore une fois que Luis Enrique, alors peut-être qu'on est content parce qu'il va dans la même direction que nous, donc ça nous arrange. Mais il y a 4-1. Le match est plié. Je donne 15 minutes à Mayulu plutôt que de donner 15 minutes à Mbappé ou à Dembélé. Parce que déjà, tu prends le risque de les blesser. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt à les mettre. Et parce que ce gamin, qui est en plus en fin de contrat, 15 minutes contre Lyon au Parc, quand tu mènes 4-1, c'est le bon moment de lui donner plutôt qu'à des joueurs qui ont déjà 1490 minutes et à qui ça ne va rien apporter de jouer 15 minutes contre Lyon. Voilà, ça aussi, c'est la gestion. Et pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure dans les recrutements, Mayulu, pour moi, c'est le profil type du joueur qui doit prendre la place d'un Solaire, qui ne sert à rien. Voilà, ce profil de jeune qui va faire ses 15-17 entrées, 5-6-7 titularisations, donc ta vingtaine de matchs la première année en post-formation. Voilà, pour moi, c'est le profil que... Et comme on sait que Luis Enrique aime les jeunes et lui, il n'a pas peur de les lancer. Voilà, on est là et avec Asensio, tu as des mecs d'expérience qui vont aussi apporter. Voilà, je trouve que le mix est parfait. Et donc, Asensio, pour finir, je voulais saluer son match parce que voilà, on attendait un peu plus par rapport à son début de saison. Les blessures l'ont freiné. Mais ça reste quand même un très beau joueur de foot.
Seni Mayulu, hein, qui avait fait un très bon match contre Clermont lorsqu'il avait été titularisé au Parc, qui a 17 ans. Et c'est vrai que ça change par rapport au management de Christophe Galtier la saison dernière, qui aurait fait rentrer les joueurs. Vous vous souvenez qu'il faisait rentrer les joueurs au palmarès, hein, et au nombre de sélections avec leur pays. Donc évidemment, Solaire rentrait pratiquement tout le temps à la place de Zaïre Emery, par exemple. On va passer à notre dernière rubrique, si vous le voulez bien, pour conclure ce podcast, quand même pour parler de l'hommage du Parc à Marquinhos, qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors il est déjà à 438 matchs, hein, je crois. Hein. Il a dépassé Jean-Marc Pilorgé. Hier, il a été célébré à la fin du match avec évidemment le speaker Michel Montana. Qui lui a remis un trophée à la fin du match, avec un beau tifo aussi à son effigie dans les travées du Parc. Il a célébré avec le CUP. Bref, la fête était très belle, JB, hier, pour célébrer donc le record du capitaine Marquinhos.
Le PSG fait pour une fois bien les choses. Alors effectivement, là, on voit 436, c'est 438, hein, on a vérifié, hein, c'est le nombre de matchs joués. C'est celui qui a porté le plus le maillot du club.
Ouais.
Moi, j'ai bien aimé l'échange avec Pilorgé. Ça a été mis en scène par le club, mais à plusieurs reprises, il y a eu un dialogue comme ça qu'on n'avait pas auparavant. Alors, il y a des raisons marketing, etc. Il y a des raisons politiques à ça, mais il y a aussi une vraie transmission. Et j'ai bien aimé, moi, l'interview de Marquinhos La manière dont il a eu aussi de répondre aux anciens qui l'ont sollicité, je pense par exemple aux larmes quand on lui parle de Thiago Silva. Il y a aussi finalement tout ce qu'on voit sur la pelouse du parc après le match. Moi, je l'ai regardé à la fois sur Prime et j'avais le live de PSG TV. C'était pas du tout les mêmes images et c'était assez intéressant de voir comment c'était mis en scène. La famille était là, on a vraiment honoré le joueur, on en a fait beaucoup et il suffisait de voir la fierté de Nasser. C'était drôle. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé l'émotion de Marquis. C'est un joueur qui a marqué l'époque QSI, qui restera dans l'histoire aussi pour ça. On verra s'il s'impose comme le meilleur défenseur de l'histoire du club. Pour l'instant, à mon sens, ce n'est pas le cas. Mais ce qui va être intéressant, c'est cette fin de saison. Parce qu'il l'a dit clairement, il l'a dit devant le parc, on va aller chercher cette finale de Ligue des Champions.
Marquinhos, hein, qui est au club depuis arrivé en 2013 hein, de l'AS Rome. Il est arrivé tout jeune, ça fait 11 ans désormais qu'il est dans le club de la capitale. Il a rapporté beaucoup de trophées, hein, je pense évidemment aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aux 8 trophées de champion de France, aux 5 coupes de France, 3 coupes de la Ligue, trophées des champions, etc. Ce serait bien évidemment pour son nouveau record de prendre la Ligue des Champions cette saison, pour une première. Nico, c'est vrai qu'en plus il revient bien, il a fait un très bon match contre le Barça au match retour, et donc ça tombe plutôt bien d'avoir ce record-là qui tombe à ce moment-là de la saison.
Oui, oui, c'est toujours bien. Alors moi, je n'ai pas regardé parce que j'étais garé loin. Moi, j'étais garé super loin, donc je suis parti avant, donc je n'ai pas vu l'hommage. Puis je ne voulais pas rater le débat sur l'équipe TV en plus, donc je suis rentré tôt. C'était au-delà de tout ça, alors c'est bien d'honorer quelqu'un parce que ce n'est pas anodin d'être le joueur qui a le plus de matchs au club. C'est, pour le coup, je trouve que c'est une vraie... c'est une vraie preuve de reconnaissance, c'est une vraie preuve de fidélité à un club. C'est voilà, ça c'est pas un chiffre anodin. Je suis pas un adepte des stats dans tous les sens, mais ce chiffre-là, il a vraiment une valeur. Après, au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir ce que propose aujourd'hui Marquinhos sur le terrain. Il a mis 2 ans à se relever du match à Madrid. C'était un peu long, mais je trouve que ça va mieux aujourd'hui. Encore une fois, je pense que le cadre imposé par Luis Enrique fait que Marquinhos retrouve un petit peu des sensations et un mental un petit peu plus en adéquation avec ses qualités et ce qu'on attend de lui. Je reste toujours sceptique sur le fait que ce soit un grand capitaine. Je suis pas convaincu de ça. En tout cas, Marquinhos est un grand joueur du PSG. Je vous laisserai débattre sur savoir si c'est une légende ou pas. Mais en tout cas, on retrouve un bon Marquinhos au bon moment de la saison et l'association qu'il était censé proposé avec Lucas Hernandez dans l'axe, je trouve qu'elle a été longue à se mettre en place, mais voilà, elle est là et ces deux-là ensemble, je pense qu'on peut avoir une belle fin de saison grâce à eux aussi. Et puis voilà, après sur son record, bah, écoute, bravo à lui, continue de plus salir ton short, sois fort mentalement, mon petit Marquinhos, tout ce qu'on te demande, et pour le reste, évidemment, un bon joueur de foot, mais voilà, moi, j'attends de le voir sur les gros matchs, j'attends de le voir contre Dortmund, voilà, qu'on garde un Marquinhos à ce niveau-là, et surtout un Marquinhos fort mentalement, c'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est pas forcément un grand capitaine, mais en tout cas, c'est un grand joueur, c'est une évidence.
Yacine, légende du club, Marquinhos. Parce que Nico posait la question.
Dans l'histoire, je ne sais pas, légende, tu sais quoi, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu commences à avoir 50 ans, je ne sais plus, on va commencer à en avoir beaucoup des légendes. Donc, est-ce qu'on doit mettre autant de légendes? Est-ce que, du coup, le terme légende, il a la même signification quand tu commences à en avoir 10, 15? Je ne sais pas. Après, il a marqué l'histoire clairement. Après, je pense que suivant les âges, il y en a qui le mettront. Il y a eu des grands défenseurs au PSG, il y a eu Ricardo, Thiago Silva, c'était quand même malgré tout un très très grand joueur. Voilà, donc je ne sais pas, après c'est clair qu'il a marqué l'histoire, il fait partie de l'histoire et encore plus aujourd'hui en étant le joueur qui a donc porté le plus de fois le maillot en match officiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments cette année, encore une fois le travail de Luis Enrique, il y a sa blessure avant les huitièmes de finale, où là aussi, il manque pas parce que Luis Enrique a fait le travail. Alors, c'est que la Real Sociedad, tout ça, tout ce qu'on veut, machin. Malgré tout, il manque pas parce que Luis Enrique a fait le travail avant pour ne pas lui dire « Viens jouer blessé, finalement, et à 40%. Et puis, quand tu vas te trouer, ben, on va te tomber dessus et tu vas t'enfoncer encore plus. » Non, ben, prends le temps de te soigner. Et puis, il prend le temps de se soigner. Et puis, il revient, il est bien. Et il revient, il est bien parce que l'équipe, elle tourne. Il revient, il est bien parce que il y a des principes qui lui permettent de pas prendre de vagues. Il revient, il est bien parce que il y a des principes collectifs où il y a des compensations et ça se passe bien. Il revient, il est bien parce qu'il joue pas tous les matchs depuis le retour de blessure parce qu'encore une fois, il y a la gestion des temps de jeu. Et puis, ça lui permet de faire deux grosses interceptions dans la fin de match contre Barcelone. Voilà, c'est toute cette gestion de cette année-ci. Moi, je pense que, parce que j'ai vu passer dans le chat, alors désolé pour les prénoms, j'ai oublié les pseudos, mais j'ai vu passer dans le chat, on a la meilleure version d'Asensio, alors Asensio un peu moins parce qu'il a quand même été blessé, de Dembélé en termes de blessure. Mais est-ce qu'on a la meilleure version, ou est-ce qu'on a la meilleure gestion qui permet d'avoir la meilleure version? C'est toujours ça le truc. Donc, moi, je suis désolé, si on a la meilleure version de Dembélé sans blessure, c'est qu'à un moment donné, il a été bien géré et qu'il a été mis au repos sur certains matchs pour pas peut-être forcer parce qu'on connaît sa fragilité musculaire à un moment. Et que voilà, on a la meilleure version de Marquinhos depuis 2 ans, peut-être parce que le coach l'a bien géré. On a la meilleure version. Voilà, enfin, on est oublié. En fait, c'est un tout. Cette saison, c'est un tout. Et je redis que. Moi, je ne veux pas faire l'éloge d'Enrique parce qu'il y a plein de choses, mais je redis qu'il a aussi un avantage. C'est que, un, on lui a donné les clés pour gérer comme il veut, et notamment encore plus depuis l'annonce du départ de Mbappé. Mais il a aussi une chance, Luis Enrique, malgré tout, et on ne saura jamais comment ça aurait été géré avant. Mais c'est le premier entraîneur depuis 7 ans qui n'a qu'une seule star à gérer. Voilà, donc, écoute, c'est un tout cette année. Il y a les dirigeants qui ont fait du bon travail. Il y a les clés qu'on a données à Luis Enrique. Il n'y a qu'une seule star à gérer sur le terrain. Lui a aussi des principes forts et une grosse mentalité pour gérer tout ça. Il a redonné de la confiance. Il est en guerre avec les médias, parce que nous, on aime toujours un peu ça aussi, parce qu'on est Paris et qu'on est toujours en guerre avec les médias. Voilà, écoute, et juste, tiens, un dernier mot. Là, Paris est en demi-finale de la Ligue des Champions. Paris est... presque champion. On rappelle qu'ils peuvent être champions mercredi, mais ça dépendra du résultat de Monaco. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient champions contre Le Havre, pour tout ce que ça implique entre Le Havre et le fait d'être champion au Parc, parce que c'est bien aussi quand même d'être champion au Parc, parce que je crois que les dernières années, on fait beaucoup de titres un peu, on est champion à l'extérieur et on vient faire la fête au Parc, mais ça serait bien d'être champion au Parc. Malgré tout, quoi qu'il se passe après, il y aura des choses à dire. Dans le bon comme dans le mauvais, il y aura peut-être des critiques à faire sur le match contre Dortmund et tout. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, la saison, elle est réussie. T'es fin avril, t'es en course dans toutes les compétitions. Et que quoi qu'il arrive, t'es dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Alors évidemment qu'on la veut tous, on veut tous aller au bout, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais en fait, quand t'es dans le dernier carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 équipes qui ne vont pas gagner la Ligue des Champions auront raté leur saison. Est-ce que leurs entraîneurs seront pourris? Est-ce qu'il faudra tout remettre en cause? Non. Donc en fait, sur une première saison de reconstruction, on est le 20 avril et tu es au bout de tout avec des bons comportements, avec un état d'esprit, avec moins d'histoire dans le vestiaire et tout. Globalement, aujourd'hui, la saison, on peut déjà dire qu'elle est réussie. Elle peut être exceptionnelle, mais elle est quand même déjà réussie.
Yacine a dit des choses positives et vous n'avez pas entendu. Merci, le casté.
C'est une très belle conclusion, Yacine, pour ce podcast. Alors, je tiens à dire quand même. Ouais. Ouais, et ouais. Donc là, c'est vraiment que ça va très, très bien au PSG. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur une aussi bonne période. Je tiens à dire quand même, et JB, tu as raison de le rappeler dans le chat, ça manque de likes hein, quand même. Je trouve qu'on est plus de 760 en live et on a à peine même pas 300 likes. Donc, s'il vous plaît, petite pause et on like la vidéo. Il y a souvent en plus des abonnés qui nous disent il n'y a pas assez de likes, etc. pour ceux qui nous suivent, donc vous avez raison de le dire. Et donc n'hésitez pas à liker le podcast si le contenu vous a plu. J'ai quelques chiffres à vous donner quand même, puisqu'on était quand même plus de 1100 en live pour le débrief du Barça après le match retour, et plus de 25 000 donc à avoir vu la vidéo, le débrief sur YouTube. On est près de 550 membres abonnés sur la chaîne YouTube de Paris United, donc merci à vous pour tout ça. quasiment 1000 sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos contenus sur TikTok, à vous abonner à la formule d'abonnement qu'on vous propose depuis quelques semaines, depuis début avril maintenant, à 3€ par mois. Vous avez accès à des contenus différents du podcast. La Minute Coach de Yacine, déjà, il y a des interviews. Il y a déjà une interview d'Alain Laroche qui est en ligne. Il y en a une belle qui arrive pour le mois prochain. Il y a l'émission sur Kylian Mbappé, quelle place a-t-il laissé, quelle est-il dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui arrive encore. Donc, merci à vous pour tout ça. On va conclure cette vidéo là-dessus. Alors, prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera donc mercredi face à Lorient. Il y aura le match au Havre ce week-end et puis il y aura donc la Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Donc, on va vous préparer une petite vidéo pour teaser la demi-finale aller, la double confrontation face à Dortmund. On fera peut-être pas un débrief de Lorient, on va pas vous le cacher, hein, parce qu'on fait quand même pas mal de contenu et chacun aussi a des agendas un peu chargés. Mais on vous fera une vidéo avant Dortmund PSG, ne vous inquiétez pas, pour évidemment teaser cette demi-finale de Ligue des Champions qui nous passionne tous autant.
Pour meubler l'attente aussi.
Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Nico, merci JB, merci Yacine. Voilà, bah bien sûr, pour vous ayez du contenu à déguster sur la chaîne YouTube de Paris United. Merci à vous trois d'avoir été présents à mes côtés pour débriefer cette belle victoire du Paris Saint-Germain 4-1 face à Lyon, clôture de la 30e journée. Et puis donc, on se dit à bientôt pour donc une preview sur la demi-finale face à Dortmund. Merci à tous et bonne journée. Ciao.
Ciao.